en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Pierre Nora, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 6 juin 2002. Pierre Nora, qui se définit lui-même comme un historien de la France et de sa mémoire nationale. Son nom reste attaché au développement d'un courant particulièrement fécond, la Nouvelle Histoire, même si son lien avec ce courant reste à préciser. C'est ce que lui-même pense intimement. Et il a été le maître d'œuvre de ce travail monumental qu'a constitué l'élaboration éditoriale des lieux de mémoire, somme se donnant pour but de faire un inventaire des lieux et des objets dans lesquels s'est incarnée la mémoire nationale des Français. Grand historien et grand éditeur donc, il a créé chez Julliard la collection de poche Archives, puis chez Gallimard, la Bibliothèque des sciences humaines, la collection Témoins et la Bibliothèque des histoires, sans oublier la revue Débat. Pierre Nora, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle le principe de cette série L'Essentiel, cette question récurrente posée donc à tous les invités et concernant leur itinéraire, leur milieu d'activité, leur regard sur le monde et leur motivation. Tout de suite, la première question, Pierre Nora. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Incontestablement, mon entrée aux éditions Gallimard en 1965. Ça paraît étrange puisque j'y suis encore et que donc je célébrerai mes 45 ans l'année prochaine, ce qu'on peut considérer comme obscène ou, si on préfère, magnifique. Les deux sont probablement vrais. Écoutez, à l'époque, Claude Gallimard m'avait fait une proposition qui ne se refuse pas, ou presque, alors que beaucoup de gens me disaient « mais tu vas être dévoré ». J'étais parti pour être un universitaire, un essayiste, un historien, et pas du tout un éditeur.
Vous aviez commencé d'ailleurs un livre très intéressant sur l'Algérie. Hein.
Oui, un livre sur les Français d'Algérie. Et j'avais en route d'autres essais. Et j'avais fait, chez Julliard, une petite collection de documents, 1964, qui s'appelait Archives, et qui consistait à faire monter par les meilleurs historiens des pièces que l'on pouvait considérer comme des archives pour mettre en quelque sorte les archives dans la rue et dans la poche. Et le succès de cette collection, qui a été au fond un peu mon enfant chéri, Claude Gallimard, qui cherchait quelqu'un pour faire de l'histoire chez lui, m'a contacté. Et de fil en aiguille, moi je n'avais pas envie de faire une collection d'histoire, et sans le vouloir, la mayonnaise est montée et il m'a finalement proposé d'entrer pour l'aider à développer tout le secteur qu'on appelle en anglais non-fiction, c'est-à-dire en fait de ce qui n'était pas la littérature, en considérant que son père s'était illustré par la découverte et la publication de toute une génération que vous connaissez, la NRF, et que, en revanche, lui était en train de manquer Lévi-Strauss, Braudel, Lacan, tout un mouvement intellectuel qu'il pressentait, qu'il ne connaissait pas et qu'il me demandait de lui ramener, de lui mettre en scène. C'est comme ça que je suis entré chez Gallimard alors que j'étais assistant et maître assistant, je ne me souviens plus très bien, à sciences politiques. Et voilà, je suis parti en me disant, comme avec une maîtresse qui vous plaît, mais dont on se dit je vais rester 3 mois ou 1 an avec elle, et c'est tout. Et 45 ans après, me voilà ici,
fidèle. Et entre-temps, vous avez eu près de 700 mariages.
À peu près, oui, 700, en effet, enfants.
Enfants.
Je ne sais pas si j'ai fait un mariage, mais j'ai dû mettre à peu près 700 livres au catalogue de chez Gallimard et me retrouver avec Pontalis et Grenier, le plus ancien de la maison. Claude Gallimard voulait que je fasse depuis longtemps une revue qui serait le pendant de la NRF, pour appuyer le secteur de livres que nous étions en train de construire entre les bibliothèques des sciences humaines, la bibliothèque des histoires et les autres collections d'essais. Moi, je m'y refusais en sachant ce que représentait le travail d'une revue et je voulais, tout ce qui n'était pas chez Gallimard, faire du travail personnel. Et comble d'histoire, au moment où j'ai été élu à l'école des hautes études, c'est-à-dire en 78, Claude Gallimard, considérant que si je manquais partir de chez Gallimard pour travailler, et c'est à ce moment-là que, sentant qu'une collection de plus me ferait comme alourdir, a proposé une revue et que tous mes amis et confrères de Le Goff, de Foucault, de Bourdieu, qui régnait un peu intellectuellement aux hautes études, de François Furet, tout le monde m'a dit une revue comme ça. Ça ne se refuse pas, même pour les hautes études, c'est beaucoup plus important que tu fasses une revue qu'un séminaire de plus. Donc j'ai fait le séminaire où j'ai commencé les lieux de mémoire et j'ai fait cette revue pendant que je faisais les éditions. J'ai, pour tout dire, eu quelques années extraordinairement surmenées, mais qui ont abouti au fait que, effectivement, le débat a été lancé. Les lieux de mémoire se sont élaborés, le premier volume a paru en 1984, et aux études, je crois que j'ai assumé, à travers ces lieux de mémoire, ce qu'ils me demandaient de faire, c'est-à-dire une histoire du présent.
Voilà. Alors là, je vous ai posé donc la question du moment essentiel par rapport à votre carrière. Si vous me permettez d'aborder votre vie privée, est-ce que l'on peut dire que le moment essentiel, ou au moins l'un des moments essentiels, aura été ce moment où vous aviez 12 ans, vous aviez quel âge, 12 ans, 13 ans, quand vous avez échappé à la Gestapo?
Ah, écoutez, on ne va pas insister sur ces problèmes, mais en effet, oui, j'avais 12-13 ans, où nous étions réfugiés dans le Vercors, et j'étais dans une pension où d'ailleurs il y avait beaucoup de professeurs qui eux-mêmes étaient des juifs d'Autriche ou d'Allemagne qui étaient réfugiés. Et les Allemands, effectivement, sont venus une nuit me chercher, enfin la Gestapo. Et c'est le directeur de cette école qui s'appelait M. Juillet, un homme admirable, qui m'a fait sauter par la fenêtre et m'a sauvé comme ça la vie. Voilà.
Et ça vous a donné une vision tragique de l'histoire ou...
C'est pas cet événement-là. Je pense que ce sont les 4 ans de guerre. C'est ensuite ce que j'ai vécu et vu de l'invasion du Vercors. C'est certainement cette guerre entre 9 et 13 ans dont j'ai vu de près des choses épouvantables dans le Vercors qui m'ont un peu, je dirais, décalé d'une génération quand je suis rentré à Paris. Et que j'ai retrouvé des petits garçons de mon âge, mais qui n'avaient pas eu la même expérience, disons. Ça m'a... Oui, peut-être que c'est ça, en partie, qui m'a donné ce que vous appelez une vision tragique de l'histoire, à supposer que je l'ai.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pierre Nora, aujourd'hui, dans votre propre activité, qu'est-ce qui est, à vos yeux, justement, l'essentiel ?
Je dirais le débat. Je dirais deux choses. Le débat et échapper au débat. Voilà, c'est ça qui est essentiel.
Alors, le débat.
Parce que la revue, c'est un travail extrêmement spécial, mais qui est passionnant. Ça me rappelle d'ailleurs un petit mot de Michel Foucault quand, au début du débat, j'hésitais à me lancer et qu'il me poussait énormément. Et en me disant, écoutez, une revue, c'est 100% emmerdant, et 150% passionnant. Alors, donc lancez-vous, etc. Et effectivement, c'est un travail intellectuel d'anticipation, examen panoramique des choses, de jugement critique, d'installation dans une forme de culture qui, moi, m'importe, qui est à la fois intellectuelle, littéraire, politique et d'une certaine façon scientifique. Ça demande un type de regard très spécial sur l'ensemble de la culture, de la production et de la réalité. C'est une énorme activité et peut-être que ça me... Je n'ose pas dire ça me tient jeune, mais enfin, du moins, ça me laisse dans le coup.
Les apparences donnent l'impression
alors,
que c'est exact.
Alors en même temps, mon problème, c'est d'y échapper pour travailler un peu personnellement. Parce qu'une revue est extraordinairement dévoratrice. Je la fais heureusement avec quelqu'un qui s'appelle Marcel Gauchet, c'est connu, qui lui-même, par sa force personnelle, arrive à faire une œuvre créatrice plus intense que la mienne, plus grande. Je l'en félicite, je l'en admire, je l'envie d'une certaine façon. Je ne ferai pas cette revue sans lui parce que nous sommes jumelés dans un couple dynamique, complémentaire, un peu improbable, mais qui donne lui aussi des fruits incontestables. Et le plaisir aussi intellectuel de travailler avec lui, qui n'est pas de la même génération, qui n'est pas de la même spécialité, est permanent.
Alors, lorsque vous avez lancé cette revue, 1980, vous avez écrit un article sous le titre « Que peuvent les intellectuels ?» Pour fêter les 20 ans des débats, vous avez publié un article sous le titre « Adieu aux intellectuels ?» L'année prochaine, nous en serons au 30e anniversaire. Vous avez une idée du titre que pourrait...
Donner, vous me stimulez. Je crois qu'il faudra abandonner cette idée des intellectuels. Le monde a beaucoup changé. Que peuvent les intellectuels ? C'était dans une atmosphère post-totalitaire où les, c'est-à-dire critiques du totalitarisme, où les intellectuels, on leur attribue une certaine capacité, un certain pouvoir, qui me paraissait peut-être exagéré par rapport à ceux qu'ils avaient cru pouvoir exercer pendant la période précisément du totalitarisme. Et c'était une question réaliste. Que pouvons-nous faire réellement, nous, intellectuels ? 20 ans après, il y avait eu la montée en puissance de ce qu'on avait beaucoup appelé à l'époque les intellectuels médiatiques, qui en fait ont été une sorte de vague superficielle à mon avis, mais à l'époque très forte, qui avait monopolisé la représentation des intellectuels et où seulement une très petite poignée d'entre eux, qui en fait cessaient d'être intellectuels parce qu'ils étaient trop médiatiques, donnaient l'impression qu'on voulait faire autre chose que ce qu'ils faisaient eux-mêmes.
Et vous pensez à qui, très franchement, à Lévy, Glucksmann ?
Évidemment, Bernard-Henri Lévy, qui, quand on y réfléchit, est probablement le seul vrai intellectuel médiatique. Le seul, en ce sens que c'est un véritable phénomène à lui tout seul, qui suppose des qualités qui lui sont très propres, mais qui illustre une autre forme d'activité intellectuelle que celle à laquelle nous avons été habitués. C'est une activité à certains égards de terrain, d'opinion immédiate, de jugement à chaud, d'intervention permanente, alors que nous avons été habitués à l'inverse. L'idée d'intellectuel, ça voulait dire plutôt les hommes de cabinet, des hommes de réflexion, des hommes de distance, des hommes de recul, et non pas cette génération dont Bernard Lévy a certainement été le plus public et le plus brillant.
Oui, mais qu'est-ce qui reste après de ces interventions ?
Rien. Ouais. Point, rien. Point. Mais oui, même sur le moment. Mais c'est pourquoi je crois que j'avais appelé mon article « Adieu aux intellectuels » ou quelque chose comme ça.
Il y avait un point d'interrogation quand même.
Oui, ça, c'est ça que ça voulait dire. Ça veut dire, est-ce que, voilà, bon, laissons-leur le mot, mais si c'est ça, fuyons le mot.
Alors, dans votre discours de réception à l'Académie française, vous avez écrit cette phrase étonnante, enfin, superbe. « Je ne connais pas d'histoire de France digne de ce nom qui ne s'achève ou commence par une déclaration d'amour. » Vous, votre histoire d'amour avec la France, elle est plus sombre que celle d'un Michelet, que celle d'un Brodel
Elle est surtout beaucoup plus problématique. Parce qu'au fond, les histoires de France à la Michelet supposaient une fin heureuse. La fin heureuse de Michelet, c'était la Révolution française. Après, ça ne compte pas. La fin heureuse d'un historien comme Lavis dans son Histoire de France et ses 27 volumes, c'est la guerre de 14, qui, si tragique qu'elle était, se termine quand même par une victoire. Même si l'Europe se suicidait à travers toute cette aventure, les Français terminaient victorieux. Aujourd'hui, les Français sont beaucoup plus mal à l'aise avec leur histoire. Et depuis la guerre, au fond, la France donnait l'impression d'ailleurs de se retirer. J'ai souvent été frappé par le fait que, jusque dans les années 30, la France avait connu la plupart des grandes expériences historiques en première ligne. Depuis, je dirais, les croisades. Depuis la monarchie absolue, qui a été imité dans toute l'Europe, depuis les Lumières, depuis qui, malgré tout, se sont très largement déployés dans la France du XVIIIe siècle, puis la Révolution française. Pas l'industrialisation, que l'Angleterre l'a connue bien avant, et même l'Allemagne, mais la colonisation. Bref, à beaucoup de ces expériences historiques, la France a été en quelque sorte à l'avant-garde de l'histoire. Et puis à partir de 1918... Le mouvement artistique des années 10. Oui. C'est à Paris que ça se passait. Donc il y avait effectivement une sorte d'avant-garde de l'histoire. Depuis les années d'après-guerre, depuis la fin de la guerre du 18, justement, de la première guerre, la France donne l'impression de ne plus subir que le contre-coup des grands événements mondiaux. Heureusement, elle n'a pas connu la crise de 1930 autant que l'Allemagne. Et du coup, on n'a pas eu de Hitler, si j'ose dire. On n'a pas connu vraiment le fascisme ni le communisme. Ce sont là aussi, heureusement, d'autres pays. Et nous n'avons eu un parti communiste très fort que parce qu'il n'a pas été au pouvoir. Nous ne l'avons pas subi. Grâce à De Gaulle, probablement, et c'est même son principal mérite, et celui de la France libre, c'est de nous avoir évité la prise de pouvoir des communistes en 1945. Donc on a l'impression, à tous égards, que la France a subi, même prenez la guerre froide, nous l'avons subi plus que... nous l'avons intériorisé parce qu'il y avait justement un parti communiste très fort. Et je pense qu'à partir de 1945, la France, au fond, se retire et que le gaullisme d'une part, le communisme de l'autre, dans leur radicalité même et leur partage de l'imaginaire national, expriment chacun à leur manière excessive, l'un sur le plan du nationalisme, a fait vivre la France au-dessus de ses moyens, De Gaulle, jusqu'après la guerre d'Algérie. Et le communisme aussi nous a donné, malgré tout pour ceux qui le suivaient ou qui en étaient dans l'ombre intellectuelle, le sentiment de, grâce au capital révolutionnaire que la France avait eu depuis 89, de pouvoir être à l'avant-garde d'une sorte de révolution mondiale dont ils étaient bien loin de vouloir la réalité. Alors, ces deux phénomènes historiques qui ont marqué quand même et qui ont été les deux ailes marchandes de l'idéologie nationale après la guerre, sont toutes les deux, à mon avis, des manières de vivre une forme de sortie de l'histoire ou de la grande histoire dont ensuite on ne voit que la monnaie de l'absolu.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pierre Nora, aujourd'hui, dans votre domaine d'activité, qu'est-ce qui est, à vos yeux, l'essentiel ?
Vous voulez parler de l'histoire ?
L'histoire.
Oh ben, je crois que c'est quelque chose à quoi j'ai beaucoup participé à travers les lieux de mémoire, et qui sanctionnait la montée en puissance d'un thème devenu central dans l'histoire, qui est le thème de la mémoire.
Et donc de l'identité ?
Si vous voulez, je préférerais répondre à votre propre première question et garder cette seconde pour après, si vous voulez bien.
D'accord.
Parce que la première en soi mérite une vraie réponse. C'est ce qui est évidemment le plus important au niveau de ma génération, c'est le passage d'une histoire prioritairement économique et sociale à une histoire culturelle. Et même, je dirais, que le triomphe de cette histoire culturelle est si puissant au détriment, hélas, je dirais, des formes plus traditionnelles d'histoire comme l'histoire économique et l'histoire sociale, que même les grands phénomènes de société ou les grands phénomènes économiques sont plus étudiés dans leur dimension culturelle que dans leur dimension proprement économique. Vous ferez l'esprit d'entreprise, par exemple, une histoire de l'esprit d'entreprise en économie, et vous ferez beaucoup moins l'histoire de l'entreprise elle-même que l'histoire, par exemple, de l'esprit d'entreprise.
Mais lieu de mémoire a contribué beaucoup à cela.
Oui.
C'est devenu un lieu commun, un mot commun.
Un mot commun, absolument. Absolument, je le reconnais, au point que le titre, qui à l'époque était extrêmement original en 84 jusqu'en 95, est devenu une enseigne. On me fait souvent remarquer que si je l'avais déposé, je serais riche.
Et puis la deuxième originalité, c'est y a évidemment le champ d'investigation que vous avez choisi, donc essayez de définir un peu notre identité à travers une mémoire.
Voilà. Alors.
Mais la deuxième chose, c'est que en même temps, vous avez eu le courage d'échapper à la grille de lecture marxiste qui avait été dominante jusque-là. On a recommencé à appréhender l'histoire d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus complexe.
Oui. Je suis arrivé à la génération, en effet, qui, après 1953, après 1956, sont des dates qui ont marqué la vie intellectuelle par rapport à la mort de Staline et puis surtout au XXe Congrès, où l'intelligentsia française s'est très largement déstalinisée, pour ne pas dire décommunisée. Et peut-être, je l'ai souvent dit, grâce à mon frère aîné, Simon Nora, qui est décédé, mais qui était un haut fonctionnaire et un ancien résistant qui était devenu main des siens au lendemain de la guerre et qui a été un des collaborateurs étroits de Mendès France. Frère Simon a joué un grand rôle dans mon propre développement. Il m'a servi de père pendant la guerre et j'étais très proche de lui. Et au fond, il m'a évité de devenir communiste parce que tous mes camarades, d'une certaine façon, d'école ou d'autres, l'étaient plus ou moins. Et c'est lui qui, parce qu'il avait beaucoup lu Marx, mais il n'était pas communiste, à la différence de toute sa génération. Il s'était un réformiste modernisateur, comme Mendès. Et au fond, je voyais Mendès à la maison quand qui dînait. C'est dans ce milieu intellectuel que je me suis développé. Et ça m'a dispensé, si j'ose dire, d'être communiste. Voilà.
Et alors, comment on arrivait de
Alors, l'identité, je n'ai pas répondu à votre question, puisque vous disiez, est-ce que mémoire ne touche pas directement les problèmes d'identité ?
Est-ce que ça n'est pas au cœur même du problème aujourd'hui ? Vous parlez beaucoup de remémoration.
Oui.
Alors, est-ce que vous pourriez expliciter un peu ce terme ? Parce que...
Oui, si vous voulez, au moment où moi j'ai commencé à étudier le phénomène de mémoire, c'était beaucoup l'expression de minorités qui refaisaient leur propre histoire, en fait, par une exploration de leur propre mémoire. Je m'explique. Ces minorités, c'était presque d'ailleurs la mémoire paysanne dont on commençait à parler, parce qu'en 1975, c'est le moment où le taux de la population active engagée dans l'agriculture en France tombe au-dessous de 10%, ce qui est toujours un seuil assez significatif, et où on a commencé à faire de l'ethnologie rurale, à constater que la vie, quand même, paysanne française songeait que les paysans représentaient encore près de la moitié de la population en 1945, et que ce passage brutal à cause de l'industrialisation rapide des 30 glorieuses, comme on a dit, entre 54 et 74 environ, qui n'était d'ailleurs que 20 ans, a modernisé brutalement la France et l'a fait, comment dire, l'a amputée de ses millénaires de stabilité, je dirais, chrétienne et paysanne, terrienne. Et même ceux qu'on appelait encore les paysans en 1975, c'était plutôt des agriculteurs. Rien que ça, plus, si vous y mettez, c'est le moment où le féminisme se déploie et où la mémoire dite féminine. C'est le moment aussi où la mémoire dite ouvrière commence à se constituer. Et à cet égard, j'ai beaucoup été frappé par un fait. En 1971, anniversaire du centenaire de la Commune, j'ai été stupéfait de voir Pompidou, qui était président de la République, venir s'incliner devant le mur des fédérés au Père Lachaise. C'est-à-dire l'ancien fondé de pouvoir de la Banque Rothschild, qui mettait genoux en terre devant ce qui avait été les fusillés de la Commune. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que les ouvriers n'étaient plus, faisaient partie de la nation, qui avait plus de danger ouvrier, si j'ose dire, qui avait plus de vraie classe ouvrière révolutionnaire, et qu'on pouvait rendre hommage innocemment, ou du moins à la mémoire ouvrière dont on commençait à reconstituer, puisque presque, prenez un dictionnaire comme celui dans plusieurs dizaines de volumes de Métron, qui a engagé une pléiade d'historiens du monde ouvrier pour faire un dictionnaire du mouvement ouvrier, ce qui voulait bien dire que c'était fini, le mouvement ouvrier, d'une certaine façon. Et je crois que la présentation de Duclos, même à la présidence de la République, signalait l'ultime chant du cygne de cette mémoire sécessionniste, si vous voulez, qu'avait pu représenter le monde ouvrier. Donc, les femmes, toutes les minorités, provinciales, sexuelles, c'était le mouvement gay, c'était les juifs. Jusque vers les années 1960, on ne parlera pas de mémoire juive spécifique. Et même la Shoah, si j'ose dire, n'existe pas en tant que telle, puisque s'il faudra attendre les années 80 pour avoir même ce mot. Mais c'est en 1961, si mes souvenirs sont bons, au moment du procès Eichmann, que tout d'un coup, la spécificité du sort fait aux Juifs pendant la guerre, en tant que Juifs, est apparue mondialement. Et rappelez-vous, d'ailleurs, c'est en 1959 qu'apparaît le livre de Schwarzbart, qui est mort tout récemment, et qui a été le premier en France, je crois, à mobiliser la conscience chrétienne sur ce problème de la spécificité juive qui, jusqu'alors, faisait qu'on était peut-être... D'abord, il y avait des Israélites, comme on disait, ce n'était pas des Juifs, c'était des, comment dire, une minorité religieuse comme une autre qui était complètement... qui pratiquait peut-être en privé, mais qui ne portait pas sa spécificité sur la place publique. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a commencé aussi à parler de mémoire juive. Alors, ça voulait dire quoi ? Minorité religieuse, minorité sexuelle, minorité provinciale, minorité de toute nature, qui, en quelque sorte, parce que précisément, elles prenaient conscience de leurs différences au moment même où ces différences s'estompaient, où il y avait une intégration de toutes ces minorités dans la majorité, que l'on a commencé à parler de mémoire. On a commencé à parler de mémoire. Jusqu'alors, vous aviez une histoire collective française qui avait pesé extrêmement lourd, qui était apprise à l'école. Violemment, nos ancêtres, les Gaulois, en étaient l'image type.
Le Lavis, quoi.
Le Lavis, absolument. Et
mais avant, il y avait eu Tocqueville, quand même. Il y avait eu une vision...
Il y a eu des tas de visions, mais qu'on apprenait
unifier,
à l'école
l'idée d'avoir une...
était quand même une histoire très unitaire. Vous pouviez être, si vous voulez, fils d'immigrants polonais des années 30 ou petit-fils d'un guillotiné de la Révolution, aristocrate, mettons. Si vous étiez sur les bancs de classe, vous étiez des Français comme les autres.
Astérix était derrière, quoi.
Oui, d'une certaine façon. Or, c'est ce double registre de l'être national qui s'est fracturé dans ces années 70 et où toutes ces minorités qui vivaient au fond leur vie particulière comme des mémoires familiales, des mémoires, ont réclamé l'inscription de leur histoire ou de leur, ce qu'ils appelaient leur mémoire qui était en fait leur histoire, au grand registre de l'histoire nationale.
Est-ce que ça veut dire que ça a été une révolution aussi importante que la révolution de 89, en fait ? Cette période-là, là, c'est...
Ben, vous savez, je crois que ça a été... Vous avez tout à fait raison. C'est ce que Henri Mindras, le sociologue, a appelé la seconde révolution française. D'un livre très intéressant, lui datait ce tournant des années 65. Et moi, en historien, je le date plutôt des années 75, c'est-à-dire des effets de ce changement qui peut se manifester à tous égards par l'arrivée des enfants du baby-boom, par le retournement économique de la croissance dans les années 70-14, par même, je dirais, la fin ou le début de la fin de ce qui va être l'emprise communiste et l'emprise gaulliste sur l'imaginaire national pour laisser remonter ce qui va devenir Mitterrand, en fait, et le mitterrandisme. C'est l'arrivée d'une certaine permissivité. 68 va être le symbole, si vous voulez, un petit peu explosif de toutes ces tendances. C'est le Vatican II et les effets de Vatican II qui ont été extrêmement importants. C'est la fin de la messe en latin, si j'ose dire, avec tout ce que véhicule de tradition cette forme de messe. Enfin, on pourrait multiplier les exemples à foison qui montreraient qu'il y a un changement profond qui va s'exprimer d'ailleurs sur le plan politique et national par la fin de la guerre d'Algérie et par ses conséquences. C'est-à-dire la fin de la projection presque mondiale de la France et le retour sur ce qu'on a précisément à ce moment-là avec Raymond Cartier appelé l'Hexagone. La montée progressive de l'Europe, l'arrivée des immigrés, c'est-à-dire d'une population pas si facilement intégrable aux normes de la francité traditionnelle, tout cela a amené un changement de modèle national évident et qu'une France traditionnellement, je dirais, dominatrice et sûre d'elle-même, comme dirait De Gaulle en parlant des Juifs, une France universaliste, providentialiste, impérialiste, étatique, commence à se transformer très très profondément par la crise de l'État, par la fin des... qui se traduira par les difficiles entrées de ce pays habitué à sa propre souveraineté dans un ensemble européen et dans un monde plus décentralisé. Alors tout ça, c'est une mutation d'un modèle national extraordinairement profond qui, je pense, a expliqué et constitué en même temps le terrain et le terreau sur lequel une prégnance de la mémoire s'est développée. Alors je crois qu'en historien, C'est cela que j'ai compris. Je n'ai d'ailleurs compris qu'à la fin que ce que j'avais cru spécifique à la France était en fait la retombée en France d'un mouvement mémoriel, d'une grande vague de fond qui saisissait le monde entier. Et que, après la fin du communisme, après la fin de la colonisation, le monde entier allait entrer dans cette recherche, soit de ses racines mentales antérieures au communisme, soit dans son authenticité et son identité. Et c'est à ce moment-là, pour répondre à votre question, que l'identité, enfin la similitude du thème de la mémoire et du thème de l'identité s'est révélée omniprésent. Au départ, quand moi j'ai commencé à étudier la mémoire, c'était plutôt la récupération par l'histoire classique de ce thème montant de la mémoire, qui était au fond, je dirais, la prise de parole de ceux qui n'avaient pas eu droit à la grande histoire. C'était la mémoire, c'était l'histoire de ceux qui n'avaient pas eu droit à l'histoire. C'était à l'histoire avec un grand R, si vous voulez. C'était ça, la mémoire. On disait ma mémoire, la mémoire de ma famille, qu'est-ce qu'il y a dans ma famille, dans ma... C'était quelque chose de privé, d'un peu secret, qui réclamait au fond
d'un Jacques Elias, par exemple, c'était ça.
C'était ça, exactement. C'était ça. Et puis, au fil du temps, la mémoire a d'une certaine façon mangé l'histoire et c'est au nom de la mémoire... La mémoire, c'était une... Au départ, c'était une demande de justice, d'une certaine façon. De rendre justice à quelque chose à quoi la grande histoire n'avait pas rendu justice. Une histoire des femmes, une histoire des ouvriers, une histoire des paysans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, une histoire des minorités. Aujourd'hui, ce thème est devenu tellement omniprésent qu'il est la caractéristique de la forme de l'existence. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu pendant ce temps-là, quand même, une montée en puissance de l'individu ou des individus à l'intérieur de l'histoire, de l'individualisme historique à beaucoup d'égards. Et tout cela a fermenté, je crois, pour donner à la mémoire une signification qui la rend beaucoup plus proche du thème de l'identité qu'elle n'était au départ.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel, élargissons encore les perspectives à votre regard sur l'évolution donc, du monde en général et l'évolution de notre société. Pierre Nora, qu'est-ce qui, sur ce plan, vous paraît essentiel à dire aujourd'hui ? On parlait de mémoire, on parlait d'identité. Est-ce que c'est là-dessus que vous voulez encore insister, l'identité ou autre chose ?
Non, je crois que, hélas, si des hommes de ma génération portent un regard global sur le monde, il est difficile qu'ils ne soient pas très pessimistes. On voudrait y échapper. Il y a peut-être des moyens d'y échapper. Le mien est celui d'essayer de le comprendre, ce monde, et d'être persuadé qu'il y aura un futur, on ne sait pas lequel. Mais je comprends qu'il pèse sur l'idée de ce futur une inquiétude qui n'a peut-être existé que dans certaines grandes périodes de l'histoire, comme la fin de l'Antiquité, par exemple, mais qui est l'opposé de ce qu'a été la Renaissance, disons, où on a vraiment eu l'impression d'un monde qui...
Mais c'est au-delà du thème du choc des civilisations, c'est bien plus large que ça.
Oui, je crois. D'abord, écoutez, comment ne le serait-il pas, cette jeune génération, dont je crois que toute la manière de vivre reflète une réaction à une inquiétude légitime et très très profonde qui n'était vraiment pas tout à fait la nôtre, surtout nous, après la libération, quand même. Il y a eu la modernisation de la France, il y a eu, puis ensuite, en dépit du monde divisé, le sentiment d'un espoir de paix. Ou quel que soit le regard qu'on pose aujourd'hui sur le monde, il est empreint d'une très profonde inquiétude. Écoutez, sur le plan, ne parlons même pas du plan politique. Une conscience écologique nous est née depuis une quinzaine d'années, qui est une conscience quand même très inquiète, évidente, et pour ne pas dire tragique. On n'imaginait même pas ça. Je me souviens, moi, les écologistes me paraissaient quand même au départ un peu des hurluberlus. Oui, voilà. Or, cette conscience écologique nous est totalement née. Même chose du point de vue scientifique. On est passé quand même d'un espoir profond dans les conquêtes de la science, un retournement probablement exagéré aussi sur les inquiétudes que la science elle-même nous apporte, évidemment. Et c'est plutôt, on ne croit plus aujourd'hui, si j'ose dire, au progrès scientifique. On croit que le progrès scientifique nous mène droit dans le mur, à beaucoup d'égards. Alors, que ce soit la nature, la science, ou cette période... Vous savez, Auguste Comte disait toujours qu'il y avait des époques créatrices et des époques stagnantes, dans le critique, disait-il, dans l'histoire cyclique de l'humanité. Je crois qu'on est plutôt dans une période critique que dans une période créatrice, soit sur le plan, à tous égards, intellectuel, pas d'apport majeur probablement. Les scientifiques vous l'expliquent que depuis 30 ans, il n'y a pas eu non plus du tout de révolution scientifique conceptuelle. Le tableau que peut donner, si vous voulez, la créativité est quand même problématique. À tous égards, pas seulement en France, je parlerai du monde entier. Et donc, il me semble qu'on est dans une période de ce que Auguste Comte appelait les périodes critiques par rapport aux périodes créatives. Cela dit, il y a des cycles, et ça ne veut pas dire qu'on ne reprendra pas autre chose, et que ne reviendra pas autre chose. C'est pour ça que moi, je suis pessimiste, mais un pessimiste actif et pas désespéré.
Alors, jugé par votre activité, votre débordement d'activité, le désespoir, en tous les cas, chez vous, est créatif. Il ne nous reste malheureusement que 10 minutes pour les 3 dernières questions. 5e question récurrente donc, de notre série L'Essentiel. Pierre Nora, pour vous, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Je ne comprends pas bien la question, monsieur, parce que il y en a tellement que je ne saurais pas dire quelle est la plus grande. Je suis un indigné réaliste, si j'ose dire. Et donc, je dirais, il y en a partout, il y en a tout le temps. La plus grande, c'est
celle
quoi ?
Celle qui vous touche le plus, quoi. Comme ça, d'instinct.
J'arrive pas à en trouver. Je suis désolé, mais j'en trouve à tous les coins
de rue. À ce point sombre dans votre jugement que...
Peut-être, en tous les cas. Je ne me pose pas la question. Je ne vois pas l'hypocrisie du monde. D'abord, c'est pas... Même la question, pourquoi le monde serait hypocrite, il n'est pas hypocrite, il est ce qu'il est.
C'est une vision stoïcienne des choses, ça. On croirait entendre Épictète ou Marc Aurèle. Enfin bon.
Oui, j'arrive pas à me... Non, mais je veux dire, si vous me dites, si je vous dis, c'est l'attitude vis-à-vis de... Oui, le monde est... Oui, c'est un mot qui n'a pas de sens, si j'ose dire, peut-être parce qu'il en a trop.
Alors,
passons, si vous voulez, à la question suivante.
Je ne sais pas si je peux vous poser la 6e question, parce que d'après ce que vous venez de dire, je serai très attentif au contenu de la réponse. Pierre Nora, quel est l'événement de ces dernières années, ou la tendance apparue ces dernières années, qui vous laisserait le plus d'espoir ?
Je dirais, pour reprendre un petit peu un des thèmes que je venais d'évoquer, la conscience de là où nous allons et une certaine lucidité collective par-delà l'aveuglement sur les risques de toute nature que l'homme fait courir à l'homme. Ce que, très franchement, on n'avait pas conscience il y a encore une trentaine d'années. Je pense qu'à travers ce qu'on a appelé, si vous voulez, les droits de l'homme, et dont je ne suis pas un fervent absolu de l'idéologie inconditionnelle, mais que c'est quand même, sous une certaine forme, un des grands phénomènes de notre temps. Mais autrement, écoutez, nous avons vécu de déception en déception, notre génération. On a pu croire à l'Europe, qui peut y croire encore. On a pu croire à la paix au Moyen-Orient, qui peut y croire encore. On a pu croire au développement de l'Afrique, qui peut encore y croire.
Enfin, l'Europe, évite la guerre. On a plus de guerre en Europe, c'est déjà ça, non ?
Mais elle est partout par ailleurs. La pauvreté du monde et les gens qui meurent aujourd'hui sont encore beaucoup plus nombreux que ceux qui sont morts pendant du fait de la guerre elle-même. Donc la guerre, elle est dans les choses, à tout moment. Si vous me parlez d'hypocrisie, tout ça. Et donc, oui, il n'y a pas de guerre, mais il y en a partout en même temps, des guerres, partout en ce moment. Alors, oui, la paix, mais je crois que c'est cette conscience, encore une fois, des dangers que la technique, que l'abus de la civilisation de consommation et industrielle, que tout cela a pénétré assez profondément dans les consciences, et que c'est quand même probablement ce qui peut nous donner le plus d'espoir, c'est qu'on se retienne au bord du précipice.
Et vous parliez tout à l'heure de toutes ces mémoires fragmentées qui, dans notre pays, ont cherché à voir le jour. Mais dans cette France métissée et multiculturelle qui est en train de se développer, qu'est-ce qui peut faire mémoire commune ?
Je dis que ce seraient deux mouvements, probablement, dont malheureusement on ne travaille aucun des deux. Le premier, puisque vous parlez de mémoire commune et de France multiculturelle, ce serait de faire réellement, collectivement, plus vis-à-vis des immigrés, pour tout dire, de faire plus à tous égards, ce qui suppose un effort collectif immense. Mais inversement, puisque vous parlez de mémoire commune, de demander et d'exiger même de tous ceux qui arrivent la conscience d'un héritage historique et collectif parfaitement respectable auquel ils adhèrent ou ils pourraient adhérer et dont on ne les fait pas vraiment partager. Autrement dit, c'est l'historien peut-être qui se met à reparler ici, et que je n'imagine pas une mémoire commune sans une histoire commune, c'est-à-dire sans un passé partagé pour que le présent le soit. Et par conséquent, je pense qu'il faudrait être à la fois, par un effort collectif beaucoup plus tenu et peut-être plus généreux, si vous voulez, de notre part, mais inversement, qui suppose, de la part de tous ceux à qui s'adresse cet effort, un effort de leur part pour partager ce qu'ils ont avec nous.
Mais est-ce que ça veut dire que...
Ça veut dire que l'histoire, le rapport de l'histoire, par exemple, je veux dire, ben écoutez, on a, je ne sais pas, on parle tout ce passé français. On supprime actuellement à tour de bras les heures d'histoire, comme vous savez. Il est très difficile d'apprendre l'histoire parce que je crois que l'histoire est l'axe de tout un type de culture qui suppose l'apprentissage de la langue, l'apprentissage du français, l'apprentissage d'une certaine grammaire intellectuelle, l'apprentissage de ce qu'on appelle les humanités au sens large du mot, même si ces humanités ne comporteraient plus le latin et le grec. Mais ça suppose un type de culture que beaucoup de professeurs cherchent encore à maintenir, mais que l'ensemble de l'enseignement est en train de rétrécir et de restreindre. J'apprenais hier que dans les classes S, le ministère allait ces jours-ci presque supprimer le programme d'histoire en terminale, ou du moins ne laisser qu'une heure par semaine alors qu'il y en a plus de deux aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne mesure, si vous voulez, en soi, parce qu'ils seront encore moins. Et donc, vous parlez de mémoire commune, il n'y a pas de mémoire, encore une fois, sans capital historique d'héritage commun que l'on fait partager.
Mais est-ce que ça veut dire alors que, pour un historien comme vous, être membre de l'Académie française devient une manière, je dirais, presque sacerdotale, de revendiquer la mémoire qu'il y a derrière chaque mot ?
Pourquoi pas ? C'est une jolie formule. Je n'avais pas senti ma mission académique comme une mission sacerdotale et sacrificielle, loin de là. Mais après tout, pourquoi pas ? Il est vrai que ça tâche à l'Académie un sens d'héritage national qui, si l'on songe que c'est l'institution d'Ancien Régime qui subsiste intégralement telle qu'elle était depuis 1735. Je crois que c'est la seule des institutions françaises subsistant de l'Ancien Régime dans l'état où elle était.
Et puis c'est celle qui permet la confrontation de gens complètement différents et...
C'est ah oui, assez oui, rare mais en France. Je parlais de l'institution, indépendamment de la vie de l'institution.
Non, mais dans sa vie, c'est l'un des rares endroits en France où des gens d'horizons complètement différents peuvent se côtoyer et faire fraternellement, pour employer...
Absolument. Fraternellement et égalitairement, si j'ose dire.
Comme un normal sup, un peu.
Oui, si vous voulez. Mais on n'a rien à s'envier les uns les autres. Il n'y a pas de jalousie, si j'ose dire. C'est un petit... Écoutez, c'est le plus petit club de France, quand même, et le plus chic.
Chic, enfin, je ne sais pas à quel sens il faut le prendre, mais pour reprendre la terminologie
qu'on a
parlé tout à l'heure...
Le plus relevé, le plus distingué.
Donc vous y êtes heureux, quoi.
Ah, moi, je suis très heureux, oui, bien sûr.
Alors, septième et dernière question, il nous reste malheureusement très peu de minutes.
Oui.
Question plus personnelle,
oui.
Pierre Nora, aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Eh bien, je vous dirais d'abord à mon âge, survivre. Premièrement, à titre personnel. Et survivre pas en essayant d'être physiquement et moralement ou intellectuellement à peu près en forme. Voilà ma principale but dans la vie. Mais au-delà de ça, je vous dirais que je me trouve par le fait un des tentatives de défense, il n'y a pas d'autre mot, de précisément ce que l'on essayait de définir tout à l'heure, d'une forme de capital historique, intellectuel, moral peut-être, si le mot n'était pas ridicule, éthique si on préfère, que j'essaye à travers modestement mon métier, c'est-à-dire mon métier d'éditeur et d'historien, de maintenir dans un monde où cette culture est en naufrage et en perdition. Honnêtement, j'ai le sentiment d'être un peu un dinosaure ou, disons, le dernier des Mohicans.
Alors, on ne va pas terminer sur une image aussi sombre.
Ce n'est pas sombre le fait qu'il puisse y en avoir encore et que des gens se reconnaissent là-dedans, sans quoi je ne pourrais pas vendre un livre, ni vendre un numéro de revue, ni exercer, ni être à l'Académie française.
On va s'autoriser un léger dépassement. Vous avez publié plus de 700 livres.
Oui.
La plus belle aventure humaine que vous ayez vécue. 2 minutes pour la raconter.
Et ben celle que j'ai connue hier soir, je vous dirais, en recevant le prix du meilleur livre étranger à un livre que j'ai publié qui s'appelle « Odyssée birmane » et qui est l'histoire extraordinaire. Et puis, puisque vous parlez d'espoir, et ben ça en donne. D'un Birman de 20 ans qui est né dans les tribus rebelles birmanes, qui a été garçon de café à Mandalay, qui a rencontré un prof d'histoire de la littérature anglaise qui passait par là, dont la jeune femme a été torturée et violée et lui-même incarcéré et torturé, a pu s'échapper et finalement, par une série de compliqués, il a pu envoyer un message à cet homme qu'il n'avait rencontré, ce professeur, qu'il n'avait rencontré que comme serveur dans un café à Mandalay. Et ce professeur, qui s'appelle John Cazell, l'a fait venir à trouver une bourse pour le prendre à Caius College en France, mais qu'on appelle Caius. Il a eu une bourse, il a appris l'anglais, il est devenu un passionné de la littérature anglaise, il est devenu professeur de littérature lui-même, et il a écrit toute son histoire. Et il montre que le plus extraordinaire pour lui, c'est le passage d'un monde précisément où tout vous est donné de l'extérieur par la tribu, par les croyances, par l'autorité extérieure, où on ne pense pas par soi-même, à un monde où on pense par soi-même et où on a sur le monde entier un point de vue que j'appelais tout à l'heure critique et peut-être et qui s'appelle tout simplement intelligible.
Pierre Nora, merci.